Contento de estar aquí.
En cette terre d'Espagne.
En esta tierra de España.
Il semble que le Seigneur veuille faire des grandes choses.
Donde parece que el Señor quiere hacer grandes cosas.
Et qu'il a sans doute déjà commencé.
Y que ya ha empezado a hacerlas, sin duda.
Alors j'aimerais, comme Gregorio nous l'a présenté.
Y quisiera, como nos ha presentado Gregorio.
Évoquer aujourd'hui avec vous la question de la vocation du soignant.
Evocar con vosotros hoy la vocación de los que cuidan a la gente.
Et plus précisément, la dimension chrétienne de la vocation du soignant.
Y sobre todo la vocación cristiana de la persona que cuida al enfermo.
Ça va comme ça? Très bien, ben c'est mieux pour tout le monde. Alors, le mot vocation, nous le connaissons tous.
La palabra vocación la conocemos todos.
Le mot soignant, nous le connaissons tous.
La palabra cuidar también la conocemos todos.
Et pourtant, ce qui nous manque à tous, c'est le regard de Dieu sur ces deux mots.
Pero lo que nos falta a todos es la mirada de Dios sobre estas dos palabras.
¿Qué es que ça veut dire pour Dieu avoir une vocation de soignant?
¿Qué quiere decir para Dios tener una vocación de cuidador?
¿Cómo le Señor ve les choses?
¿Cómo ve el Señor las cosas?
Et je commence tout de suite par m'excuser.
Y en principio empiezo por pediros perdón, por excusarme.
Parce que au moment de parler de la vocation du soignant,
porque en el momento de hablar de la vocación del cuidador,
sans doute plusieurs parmi nous auront l'impression que ce n'est pas ce qu'ils pensaient.
Quizás tengan la ocasión de piensen que no es lo que ellos creían.
Ou alors que c'est beaucoup trop pour eux.
O que quizás sea demasiado para ellos.
Alors c'est pour ça que je m'excuse.
Et por eso os pido.
Je ne regrette rien.
Yo no me apeno de nada.
Mais je m'excuse quand même.
Pero os pido perdón de todas maneras.
Je m'excuse parce que ça peut déstabiliser.
Os pido perdón porque es que puede desestabilizaros de alguna manera.
Mais je ne regrette rien parce que c'est de l'ordre de la vérité.
Pero yo no lamento nada porque está en el orden de la verdad lo que voy a decir.
Et de toute façon, il faut toujours commencer par dire que une vocation c'est un don de Dieu.
Lo primero que tengo que decir es que una vocación es un don de Dios.
Ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons.
No es algo que nos fabricamos.
Même si nous pouvons acquérir des compétences.
Aunque podamos adquirir competencias,
nous pouvons acquérir des compétences sans avoir la vocation.
Podemos adquirir competencias aún sin tener vocación.
Mais en revanche, la vocation est plus que les compétences.
Pero la vocación es mucho más que las competencias.
Mais elle implique que nous cherchions les compétences.
Pero esto implica que nosotros busquemos esas competencias.
La vocation est donc d'abord un don de Dieu.
En primer lugar, la vocación es un don de Dios.
Et on pourrait se dire, mais ce don de Dieu, il est trop important pour moi, c'est trop pour moi.
Pero también podemos decir, oui, ese don de Dios es demasiado para mí.
On pourrait se dire, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de disponibilité.
Quizás podamos decir, no tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente disponibilidad.
Je n'ai pas assez de force.
Tampoco tengo suficiente fuerza espiritual.
Je n'ai pas assez de science.
Tampoco tengo suficiente ciencia.
Et tout ce qu'on peut se dire de ce jour n'est pas juste.
Pero todo lo que nos pueden decir de esto no es lo correcto.
Car lorsque Dieu demande quelque chose,
question, porque cuando Dios pide algo a alguien,
il donne toujours la grâce pour vivre ce qu'il demande.
Él siempre da la gracia para vivir lo que se pide, lo que él pide.
Ce n'est pas moi qui ai inventé cela.
No soy yo el que ha inventado esto.
C'est Saint Augustin.
Es San Agustín.
C'est pas n'importe qui dans l'église.
No es cualquiera en la iglesia.
Alors, nous allons ensemble passer ce week-end.
Vamos a pasar este fin de semana juntos.
À essayer de redécouvrir la vocation du soignant.
Para intentar volver a descubrir la vocación del profesional de la sanación, de la sanidad.
Et il y a deux choses que l'Église nous dit aujourd'hui.
Y hay dos cosas que nos dice la Iglesia hoy.
Pour que nous cherchions, que nous découvrions au mieux notre vocation de soignant.
Para que nosotros descubramos mejor nuestra vocación de profesional de la salud.
La première chose, c'est...
La primera cosa es...
Quels sont les défis de notre temps?
¿Cuáles son los retos de nuestro tiempo?
Dans la dernière lettre du Saint-Père,
la última carta que escribió el Santo Padre,
Tertio Millennium Ineunte,
el Tertio Millennium Ineunte,
le Saint-Père nous parle des grands défis de ce début de nouveau millénaire.
El Santo Padre nos habla de los grandes retos que hay en este nuevo milenio.
Et il précise que le défi premier qui nous attend, nous soignants.
Y nos dice que el primer reto que nos presenta a nosotros los que estamos en la salud,
y plus largement tous les croyants,
y luego todos los creyentes,
c'est le défi de la vie menacée.
Es el reto de la vida amenazada.
Et nous aurons l'occasion d'y revenir bientôt sur cette question de vie.
Y volveremos sobre esto, sobre esta cuestión de vida pronto.
La vie de l'homme, ce n'est pas évident pour les soignants.
La vida del hombre no es algo evidente para los profesionales de la salud.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas évident?
¿Por qué no es evidente?
Parce que nous qui sommes soignants,
no, porque nosotros los que somos sanitarios,
nous avons surtout l'idée de la santé.
Porque sobre todo tenemos la idea de la salud.
C'est la santé de l'homme qui nous motive.
Es la salud del hombre la que nos motiva.
Et c'est très important.
Y es muy importante.
Et c'est pour cela que nous acquérons des compétences.
Y por eso nosotros adquirimos competencias.
Mais nous allons voir que Dieu, lui, quand il donne la vocation aux soignants,
pero también tenemos que saber que cuando Dios da esa vocación al profesional de la salud,
il ne dit pas seulement je te confie la santé de tes frères.
No solamente nos dice te confío la salud de tus hermanos.
Il dit je te confie la vie de tes frères.
Dice yo te confío la vida de tus hermanos.
Et c'est très différent.
Y eso es muy distinto.
Alors que dans notre société moderne,
así ahora en nuestra sociedad moderna,
en tout cas en Europe et en Amérique du Nord,
sobre todo en Europa y en América del Norte,
il y a beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques,
hay mucha gente, muchos científicos,
qui essayent de nous dire que la vie et la santé de l'homme, c'est la même chose.
Intentan decirnos que la vida y la salud del hombre es la misma cosa.
Et ceci est un mensonge.
Y esto es una mentira.
Dieu ne voit pas de cette manière.
Dios no ve de esa manera.
Et c'est très important qu'on se le dise tout de suite.
Y es muy importante que digamos inmediatamente.
Parce que si nous pensons que la vie de l'homme et la santé de l'homme c'est la même chose,
porque si pensamos que la vida del hombre y la salud del hombre es lo mismo,
il y aura beaucoup d'aspects de notre vocation qui ne pourront pas être vécus.
Habría muchos aspectos de nuestra vocación que no se podían realizar.
Par exemple,
por ejemplo,
approcher la souffrance de l'homme.
Acercarse al sufrimiento del hombre.
Le mystère de la souffrance.
El misterio del sufrimiento.
La question de la souffrance de l'homme malade.
Esa pregunta, la cuestión del hombre enfermo.
Elle est très différente quand on pense que la santé et la vie de l'homme c'est la même chose.
Es muy distinto cuando se piensa que la salud y la vida del hombre es como una cosa diferente.
O bien cuando on découvre que ce sont deux choses distinctes.
O por ejemplo cuando se descubre que son dos cosas distintas.
Et voilà que le premier défi que l'Église nous demande d'assumer.
Y el primer reto que la Iglesia nos pide que asumamos.
Aujourd'hui.
Hoy.
Et non pas au siècle dernier.
Y no en el siglo pasado.
Il y a 100 ans, ce défi-là n'existait pas.
Hace 100 años, esos retos no existían.
Il y a 50 ans non plus.
Y hace 50 años tampoco.
Aujourd'hui, il existe en priorité pour nous les soignants.
Y hoy existen para nosotros los personal de una prioridad.
Profesionales de la santé.
Los profesionales de la
salud. Eh bien, ce premier défi, c'est celui de la vie menacée.
El primer reto es el de la vida amenazada.
Et vous allez voir que pour les soignants, ça change beaucoup de choses.
Y sabéis que para la gente de profesional de la salud, esto cambia mucho.
Ça, c'était la première chose qu'il fallait se dire.
Esto era lo primero que hacía falta decir.
Quel est le défi?
¿Cuál es el reto?
Et la deuxième chose,
y la segunda cosa,
c'est, comment dire, c'est une parole du Saint-Père que je vous donne.
Es una palabra del Santo Padre que os voy a dar.
Il l'a donné aux médecins.
Él ha dado esta palabra a los médicos.
Il y a deux ou trois mois.
Hace dos o tres meses.
Le Saint-Père invite les médecins chrétiens.
El Santo Padre invita a los médicos cristianos
et plus largement les soignants chrétiens
y más ampliamente al personal de sanitario cristiano
à se montrer attentif aux signes des temps
a mostrarse atento al signo de los tiempos
pour y reconnaître les motions de l'esprit
para reconocer las mociones del espíritu.
C'est-à-dire que le Saint-Père nous parle à sa manière de l'importance d'être instruit par l'Esprit Saint.
El Santo Padre nos habla de la importancia de ser instruidos por el Espíritu Santo.
Pour répondre de mieux en mieux à notre vocation.
Para responder cada vez mejor a nuestra vocación.
C'est pour ça qu'il parle de l'importance de faire preuve d'initiative.
Por eso nos habla de la importancia de intentar de hacer una prueba de las iniciativas
de faire preuve d'ouverture à des nouveautés
para estar abierto a las novedades
et de faire preuve d'esprit de collaboration et de communion
también para abrirse a ese espíritu de colaboración y de comunión
autant que l'on peut là où on est.
Y tanto como se pueda en el sitio en que estemos.
Et ça, c'est important.
Y eso es importante.
Cela veut dire aussi dans le fond.
Y esto también quiere decir en el fondo
que la vocation du soignant comporte deux parties.
Que la vocación del sanitario comporta dos distintos puntos.
Il y a la partie commune à tous les soignants.
Aquí hay la parte común a todos los sanitarios.
Mais aussi il y a cette partie très personnelle à chacun.
Pero también existe esta parte que es muy personal a cada persona.
On pourrait dire la partie plus charismatique.
Ahí podríamos hablar de la parte más carismática.
Que nous essayerons également de voir ensemble aujourd'hui.
Que también hoy intentaremos ver.
Parce que si on se met à l'écoute de l'Esprit Saint.
Porque cuando se pone uno a la escucha del Espíritu Santo.
Si on essaie de reconnaître les motions de l'Esprit Saint.
Si intentamos reconocer las mociones del Espíritu Santo,
comme le Saint Paul nous y invite,
como nos invita el Santo Padre,
eh bien, il faut être attentif à ce que l'Esprit Saint a à nous dire à tous en même temps.
Es que hay que estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a todos a la vez.
A tous les soignants,
a todas las personas, sanitarias. Todos los que están aquí hoy,
mais aussi il faut être attentif à ce que l'Esprit Saint va dire de très personnel à l'un ou l'autre parmi nous.
Pero también hay que estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir personalmente a cada uno.
Pour être très concret, je vais prendre un exemple.
Para ser muy concretos, voy a dar un ejemplo.
Mettons qu'il y ait parmi nous deux médecins, ce que je crois il y a.
Digamos que entre nosotros hay dos médicos, que creo que sí habrá.
Et deux médecins qui ont la même spécialité.
Dos médicos que tienen la misma especialidad.
Donc qui font précisément le même travail.
Que hacen precisamente el mismo trabajo.
Eh bien, l'Esprit Saint a quelque chose de commun à dire à ces deux médecins spécialistes.
El Espíritu Santo tiene algo en común que decir a estos dos especialistas médicos.
Mais aussi l'Esprit Saint a à dire quelque chose de différent à l'un et à l'autre de ces deux médecins spécialistes.
Pero también el Espíritu Santo tiene que decir algo distinto a uno y a otro, aunque sean especialistas en la misma cosa.
Et pourtant ils ont la même activité.
Sin embargo, tienen la misma actividad.
Mais ils n'ont pas forcément la même vocation.
Pero no tienen por qué tener exactamente la misma vocación.
Ils ont la vocation commune d'être médecin.
Ellos tienen la vocación común de ser médicos.
Mais ils ont en même temps une vocation personnelle.
Pero cada uno tiene también a la vez una vocación personal.
Et c'est dans cette écoute personnelle de l'Esprit Saint,
y es en esta escucha personal del Espíritu Santo,
que nous pouvons faire preuve d'initiative,
que nosotros podemos dar pruebas de nuestra iniciativa,
et d'ouverture aux nouveautés,
y también de apertura a las novedades,
et aussi à l'esprit de communion,
y también al espíritu de comunión.
Voilà, ça c'est le programme pour aujourd'hui et demain.
Este es el programa para hoy y mañana.
¿Vous êtes d'accord ou on s'arrête tout de suite?
¿Estáis de acuerdo o nos paramos ya?
Je profite justement de cette introduction pour ajouter simplement un petit mot au sujet de la présence de sœur Caroline.
Os voy a hablar un poco de la presencia de la hermana Carolina.
Sa présence, c'est exprès qu'elle est là.
Ella, su presencia está a propósito.
Ce n'est pas du hasard.
No es una casualidad.
J'ai demandé à Gregorio si elle pouvait venir également.
Yo le he pedido a Gregorio si ella podía venir también.
Pour une raison précise.
Por una razón muy precisa.
Sœur Caroline donc est consacrée bientôt définitivement.
La hermana Caroline está consagrada y pronto será definitivamente.
Elle est donc consacrée depuis quelques années au Seigneur.
Así pues, ella está consagrada al Señor desde hace varios años.
d'une nouvelle forme de consécration dans l'Église,
de una forma nueva de consagración en la Iglesia,
avec les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance,
con los tres votos de pobreza, castidad y obediencia.
Mais cette nouvelle forme, ce n'est pas quant à la consécration elle-même.
Esta nueva forma no es en sí en la consagración en sí.
Mais c'est le pourquoi de cette consécration.
Sino que es el porqué de esta consagración.
Et le pourquoi c'est appartenir entièrement au Seigneur.
Y el porqué es pertenecer enteramente al Señor.
Pour être entièrement au service de la vie.
Para estar completamente al servicio de la vida.
Sœur Caroline n'est pas soignante.
La hermana Caroline no es una persona, un profesional de la sanación, de la sanidad.
Elle a fait des études d'économie et de politique.
Ella ha hecho estudios de economía y política.
Mais si elle est là, c'est simplement pour nous aider à comprendre le rôle, la vocation du soignant.
Pero si ella está aquí es para ayudarnos a comprender la vocación del sanitario.
Même si elle n'est pas soignant.
Aunque ella no sea sanitaria.
Mais pour cet aspect que je viens de vous dire.
Pero para este aspecto que os acabo de decir.
Que la vocation du soignant.
Que la vocación del sanitario.
Est liée à la vie de l'homme.
Está unida a la vida del hombre.
Et à tout ce qu'un soignant a comme devoir et comme grâce.
Y a todo lo que una persona sanitaria tenga como deber y como gracia.
Pour aider le malade à vivre sa vie.
Para ayudar a los enfermos a vivir su vida.
Et pas seulement à retrouver la santé.
Y no solamente a volver a encontrar la salud.
C'est différent.
Esto es distinto.
Bon, je trouve très encourageant que des jeunes comme Caroline, mais comme d'autres.
Yo encuentro que nos anima mucho a ver a estos jóvenes como Carolina y muchos otros.
Dont certains peuvent être des soignants.
En los cuales algunos pueden estar en la sanidad.
Reçoit dans le cœur un appel de l'Esprit Saint.
Que reciban en su corazón una llamada del Espíritu Santo.
Pour se consacrer totalement au Seigneur pour le service de la vie.
Para consagrarse totalmente al Señor para el servicio de la vida.
Par exemple, c'est une sœur comme Caroline qui dirige notre maison en Uruguay qui s'occupe des enfants maltraités.
Por ejemplo, hay una hermana como Carolina que se ocupa en Uruguay de los niños maltratados.
Ce ne sont pas forcément des enfants qui sont malades.
No es necesariamente niños enfermos.
Mais ce sont des enfants dont la vie est blessée.
Et son los niños que han sido heridos por la vida.
C'est une nuance.
Es una un matiz.
Et c'est une nuance sur laquelle j'appuie pour qu'on commence à se comprendre dès aujourd'hui, dès ce matin.
Es un punto en el que quiero que veáis la diferencia para que nos apoyemos sobre este punto esta mañana.
Alors,
así, comenzamos.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Tengo muchas cosas que deciros.
La vocation du soignant,
la vocación del personal sanitario.
Donc, je veux bien dire le don de Dieu.
Así quiero decir que el don de Dios,
qui fait que quelqu'un a une vocation pour être soignant.
Que quiere decir que alguien ha recibido esa vocación para ser sanitario.
Cette vocation est parmi les plus précieuses vocations dans l'Église.
Esta vocación es una de las más preciosas que hay en la Iglesia.
Pourquoi?
¿Por qué?
C'est la bonne question. On pourrait dire, sont belles.
Podemos decir que todas las vocaciones son bellas.
Et c'est vrai.
Y es verdad.
La vocation sacerdotale, elle est belle quand même.
La vocación sacerdotal es bellísima. Hein? Por ejemplo.
D'accord.
Vamos de acuerdo.
Mais le bon Dieu regarde avec une attention particulière les soignants.
Pero Dios mira con una cosa muy especial al personal sanitario.
Et quand le bon Dieu regarde avec une vocation particulière, avec une attention particulière,
y cuando Dios mira con una atención especial,
il donne des grâces particulières.
También da gracias especiales.
Et pourquoi?
Pero, ¿por qué?
Parce que le soignant,
porque el personal sanitario,
qui n'est pas meilleur que les autres hommes,
que no es mejor que los otros hombres o mujeres,
il n'est pas plus saint que les autres,
no es más santo que los otros,
et il est souvent plus faible que les autres,
y muy a menudo es mucho más débil que los otros.
En tout cas, il a les mêmes problèmes que les autres.
Bueno, de todos modos tiene los mismos problemas que las demás personas.
C'est pas parce qu'il soigne qu'il n'a pas besoin d'être soigné.
No es porque él cuide a los enfermos que él no tenga necesidad de que le cuiden a él.
Mais le soignant, allez, si bien non.
Pero el sanitario
est posé par Dieu dans un lieu précis et très important.
Está puesto por Dios en un lugar preciso y muy importante.
Et ce lieu précis, c'est le lieu de la souffrance humaine.
Y este lugar preciso es el lugar del sufrimiento humano.
C'est ce qui fait la richesse de la vocation du soignant.
Y esto es lo que forma la riqueza del personal sanitario.
Personne plus que le soignant a accès à la souffrance du prochain.
Nadie más que el personal sanitario tiene acceso al sufrimiento del hermano.
Et attention, quand je dis souffrance,
y tener cuidado que cuando digo sufrimiento,
je ne veux pas dire maladie.
No quiero decir enfermedad.
Ce n'est pas la même chose.
No es la misma cosa.
Et justement, on revient à la distinction entre la notion de santé et la notion de vie.
Y aquí volvemos a la noción de salud y de vida.
Quand un soignant ne regarde que la maladie de la personne.
Cuando un personal sanitario solamente mira la enfermedad de la persona.
Ou aussi que le handicap de la personne.
O también la discapacidad de la persona.
C'est déjà très bien.
Eso está muy bien.
Mais il ne voit la personne que dans sa santé.
Pero él entonces solamente mira a la persona más que en su salud.
Et si c'est un bon soignant,
y si es un buen sanitario,
il va se dire, mais comment, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle soit en meilleure santé?
Y va a decirse, ¿qué puedo hacer yo para que esta persona mejore su salud?
Alors que,
en cambio,
la souffrance, ce n'est pas la maladie.
El sufrimiento no es la enfermedad.
La souffrance est liée à la vie de l'homme.
El sufrimiento está unido a la vida del hombre.
La souffrance est liée à la dignité de la vie de l'homme.
El sufrimiento está unido a la dignidad de la vida del hombre.
Je m'explique.
Me explico.
Quelqu'un qui est malade,
alguien que está enfermo,
c'est quelqu'un qui est porteur d'un mal.
Es alguien que lleva, que es portador de un mal.
Quelque chose qui l'agresse dans son intégrité physique ou psychologique.
Algo que le agrede en su persona, en su salud y en su psique.
Quelle que soit la cause de cette agression.
No importa cuál sea la causa de esta agresión.
Ce peut être un virus, ce peut être un accident, ce peut être un mauvais fonctionnement organique.
Puede ser un virus, puede ser un accidente o puede ser un mal funcionamiento de cualquier órgano.
Plein de causes possibles.
Hay muchas causas.
Pero
ça, ce n'est pas humain.
Pero eso
es el hecho de expresar
une maladie.
Nuestra humanidad a través de una enfermedad.
Nous soignants qui approchons les malades,
nosotros los sanitarios que nos acercamos a los enfermos,
nous savons bien que pour toute une catégorie de malades qui ont la même maladie,
sabemos que para una gran cantidad de enfermos que tengan la misma enfermedad,
eh bien, chaque personne va exprimer sa maladie en partie, en tout cas, d'une manière qui lui est très personnelle.
Cada persona en parte va a expresar su enfermedad de una forma muy personal.
Quelqu'un qui est malade a besoin d'exprimer son humanité.
Alguien que está enfermo tiene que expresar su humanidad.
Ça, c'est humain.
Eso es humano.
Il l'exprime à sa manière.
Él lo expresa a su manera.
Il ne le réfléchit pas.
Él no lo piensa.
C'est quelque chose qui le dépasse.
Es algo que le sobrepasa.
Mais la souffrance, c'est quelque chose d'humain.
Pero el sufrimiento es algo humano.
C'est pourquoi c'est respectable.
Y por eso es respetable.
Ça ne veut pas dire que toute souffrance est bonne.
No quiere decir que todo sufrimiento sea bueno.
Ça veut dire que toute souffrance est humaine.
Quiere decir que todo sufrimiento es humano.
Et qu'à ce titre, c'est respectable.
Y que por eso es respetable.
Pourtant, il y a des gens qui souffrent d'une manière dramatique.
Sin embargo, hay personas que sufren de una forma dramática.
Et on aurait envie de tout faire pour qu'ils ne souffrent plus.
Y quisiéramos hacer todo lo posible para que no sufrieran más.
Mais ce que nous avons à faire concrètement en termes d'efficacité,
pero lo que nosotros tenemos que hacer en términos de eficacia,
c'est exercer notre compétence,
es ejercer nuestra competencia,
pour essayer de restituer au mieux la santé du malade.
Es para intentar restituir la forma mejor la salud de ese enfermo.
Mais la souffrance c'est bien au-delà.
Pero el sufrimiento está mucho más allá de todo esto.
La souffrance est liée à l'humanité de la personne.
El sufrimiento está unido a la humanidad de la persona.
A la dignité de la personne.
A la dignidad de la persona.
A la vie même de la personne.
A la misma vida de la persona.
Nous verrons tout à l'heure ce que peut signifier la notion de vie humaine.
Ahora, más tarde vamos a ver lo que significa la dignidad de la vida humana.
Mais pour l'instant, je veux dire une chose.
Pero de momento quiero decir una cosa.
Notre vocation de soignant est belle et elle est féconde.
Nuestra vocación de persona sanitaria es bello y fecundo.
Parce qu'elle nous confronte à la souffrance de l'homme.
Porque ella nos confronta al sufrimiento del hombre.
Et c'est un droit que nous avons.
Y es un derecho que nosotros tenemos.
Par vocation.
Por vocación.
Par vocation, Dieu nous donne le droit de nous pencher sur la souffrance des hommes.
Por vocación, Dios nos da el derecho de acercarnos a ese sufrimiento del hombre.
Ce droit-là, tout le monde l'a pas.
Ese derecho no lo tiene todo el mundo.
Heureusement.
Gracias a Dios.
Parce que il y aurait beaucoup de, comment dire, de menaces sur l'homme.
Porque si no, habría muchas amenazas sobre el hombre.
Si n'importe qui se penchait sur la souffrance de l'homme.
Porque si cualquiera se acercara al sufrimiento del hombre.
Pour essayer de la faire disparaître n'importe comment.
Para intentar hacerla desaparecer de cualquier manera.
Or, c'est actuellement ce qui se passe.
Y es lo que está ocurriendo ahora.
De plus en plus.
cada vez más
dans l'expression que nous connaissons pour la plupart d'entre nous,
por la expresión que conocemos la mayoría de nosotros,
et qui est la culture de mort,
y es la cultura de muerte.
Vous en avez entendu parler.
Ya habéis oído hablar de ello.
Et l'un des points de la culture de mort sur lequel nous reviendrons,
y uno de los puntos de la cultura de la muerte de la cual vamos a hablar más,
c'est qu'il y a des gens dans le monde,
es que hay gente en el mundo
qui se penche sur la souffrance de l'homme,
que se aproximan al sufrimiento del hombre,
sans avoir vocation pour cela,
sin tener vocación para ello.
Alors il, comment dire, il propose,
así ellos proponen,
et parfois ils imposent,
y a veces imponen,
des solutions,
soluciones,
ou même des lois,
o incluso leyes,
qui vont contre la dignité humaine,
que van en contra de la dignidad humana.
Alors que le soignant a pour vocation de se pencher concrètement sur la souffrance humaine.
Y en cambio el personal sanitario tiene que acercarse a ese sufrimiento humano,
tout en exerçant sa compétence pour combattre le mal ou la maladie.
Siempre para combatir el mal o la enfermedad.
Mais alors,
pero sin embargo,
si dans notre vocation de soignant, nous devons nous pencher sur la souffrance.
Así, en nuestra vocación de personal sanitario debemos pensar en el sufrimiento humano.
Et si la vocation est un don de Dieu,
y si la vocación es un don de Dios,
eh bien, ça veut dire que nous devons nous pencher sur la souffrance humaine de la même manière que Dieu.
Entonces quiere decir que nosotros debemos acercarnos al sufrimiento humano de la misma forma que Dios.
De la même manière que Dieu.
De la misma forma que Dios.
Et pourtant nous ne sommes pas Dieu.
Y sin embargo nosotros no somos Dios.
On le sait déjà.
Ya lo sabemos.
Mais nous sommes capables de lui ressembler sous cet angle-là.
Pero somos capaces de parecernos a él en ese punto.
Parce que c'est lui qui nous donne de lui ressembler.
Porque él es el que nos da el poder de parecernos a él.
Si nous prenons au sérieux notre vocation.
Si nosotros tomamos en serio nuestra vocación.
Comment Dieu se penche sur la souffrance de l'homme?
¿Cómo Dios se aproxima al sufrimiento del hombre?
Bien,
hay una palabra
bien biblique,
muy bíblica.
Que
el primero que ve la palabra que gana
algo.
Misericordia.
C'est un mot qui, que moi, personnellement, je n'aime pas en soi.
Es una palabra que yo personalmente no me gusta en él, sí.
Parce que je trouve que c'est un vieux mot.
Porque encuentro que es una palabra vieja.
Mais le sens de ce mot, je l'aime énormément.
Pero el sentido de esta palabra lo amo profundamente.
Car justement, il désigne la manière dont Dieu se penche sur la souffrance de l'homme.
Porque precisamente muestra la forma en que Dios se aproxima al sufrimiento del hombre.
Et c'est Jésus lui-même qui nous a montré cette manière.
Y es Jesús mismo el que nos ha mostrado esta forma.
Et qui nous permet de conclure que.
Y que nos permite concluir que.
La miséricorde, cela revient pour un soignant.
La misericordia nos aproxima para un personal sanitario y nos enseña lo que debemos hacer.
Premièrement,
en primer lugar, quizás me confunda en el orden, pero no importa.
Regarder l'homme dans un regard de respect de sa dignité.
es lo primero, mirar al hombre en el respeto de su dignidad.
Oh,
porque si no,
dans les soignants qui ont oublié leur vocation.
Porque en los sanitarios que han olvidado su vocación,
on se rend compte qu'ils ne peuvent plus ou pas assez regarder l'homme dans le respect de la dignité de la personne.
Porque esas personas que han perdido ese don, digamos, esa vocación, entonces no miran suficientemente en el respeto de la persona.
Et plus profondément dans le cœur du soignant,
y más profundamente en el corazón del personal sanitario,
cela évoque ce qu'on appelle les peurs du soignant.
Eso evoca lo que se llama el miedo del personal sanitario.
Les peurs spéciales au soignant.
Los miedos especiales.
Nous les évoquerons tout à l'heure.
También los vamos a ver más adelante.
Parce que finalement, peut-être qu'il y en a encore quelques-unes qui se baladent ici ou là.
Quizás hay algunos que esos miedos estén por aquí.
Oui, non.
No pensáis que puede haber miedos que estén por ahí escondidos que tengan los personal sanitario.
Je veux dire que.
Quiero decir que.
Il y a peut-être encore en l'un ou l'autre parmi nous telle ou telle forme de peur profonde.
Que entre nosotros haya alguien que tenga un miedo profundo a algo.
Que le bon Dieu voudra balayer aujourd'hui.
Que Dios quizás quiera barrer hoy de vosotros.
Pour que nous découvrions mieux encore notre vocation de soignant.
Para que descubramos mejor hoy nuestra vocación de personal sanitario.
Donc la miséricorde, c'est d'abord premièrement une question de regard dans la dignité.
Así, la misericordia, en primer lugar, es mirar a la dignidad de la persona.
Deuxièmement, c'est une question de se faire proche.
En segundo lugar, es una cuestión de aproximarse.
C'est-à-dire ne pas se défendre contre le malade qui a besoin de notre présence.
Es decir, no defenderse en contra de ese enfermo que tiene necesidad de nuestra ayuda.
Quand je dis se faire proche, ça veut dire offrir une présence.
Cuando digo aproximarse, quiere decir ofrecer una presencia.
La présence gratuite.
La presencia gratuita.
Du soignant auprès du malade.
Del personal sanitario. Cerca, al lado del enfermo.
Ça ne veut pas dire qu'il faut donner pour les médecins, par exemple, des consultations gratuites.
Esto para los médicos no quiere decir que hagan consultas gratuitas.
Je parlais de la qualité de présence.
Yo hablo de la calidad de presencia.
Je ne parlais pas de l'exercice d'une compétence.
Yo no hablo del ejercicio de una competencia, de un trabajo.
Il est normal d'être rémunéré pour l'exercice d'une compétence.
Es normal ser remunerado por el ejercicio de un trabajo.
Mais en Dieu, il est tout à fait anormal d'être rémunéré pour une qualité de présence.
Pero en Dios es absolutamente extraño el remunerar una calidad de presencia.
Car c'est un don de Dieu.
Porque eso es un don de Dios.
La qualité de présence.
La calidad de presencia.
La qualité de proximité au malade.
Esa calidad de proximidad al enfermo.
Et dans un troisième point, il y a la présence aussi, mais la présence à la souffrance de l'autre.
También en el tercer punto tenemos la presencia de la persona, la presencia a su sufrimiento.
C'est-à-dire que auprès du soignant,
así es decir que al lado de la persona sanitaria,
le malade doit se sentir de mieux en mieux la liberté d'exprimer ce qu'il porte.
El enfermo tiene que poder expresar lo que lleva dentro a esta persona con libertad.
Qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre son être intérieur à ce qu'il porte de difficile.
que él pueda abrir su corazón y su interior a eso que lleva, que es difícil para él.
La plupart des malades ne s'ouvrent jamais à leurs soignants.
La mayoría de los enfermos jamás se abren al personal sanitario.
Peut-être parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes.
Quizás porque tengan miedo en sí.
Peut-être parce que le soignant est trop pressé.
Porque quizás también el médico esté demasiado acelerado.
Peut-être parce que le soignant se rend trop inaccessible.
O también porque sea demasiado inaccesible.
Ou peut-être parce que le malade ne sait pas qu'il peut ouvrir son cœur.
O también porque el enfermo a lo mejor no sabe que él puede abrir su corazón
a la persona que le soigne,
a la persona que le cuida.
C'est pourtant cette possibilité d'ouvrir son cœur.
Y así pues esta posibilidad de abrir su corazón,
de partager ce qui fait mal,
de compartir lo que le hace daño.
Et de partager aussi les questions que l'on se pose quand on est malade.
Y también compartir las preguntas que se hacen cuando se está enfermo.
Même s'il n'y a pas de réponse possible.
Incluso aunque no haya una respuesta posible.
Et bien ça, ça fait partie de la miséricorde de la vocation du soignant.
Esto forma parte de la misericordia de la vocación del personal sanitario.
Aider le malade à ouvrir son cœur ou à se rendre compte qu'il peut.
Ayudar al enfermo a abrir su corazón o a darse cuenta que él puede abrir su corazón.
Ça s'appelle respecter la souffrance.
Esto se llama respetar el sufrimiento.
La considérer comme quelque chose d'humain.
Considerarla como algo humano.
Pas comme quelque chose de mauvais.
No como algo malo.
Même si la souffrance est dramatique, je l'ai dit.
Incluso aunque el sufrimiento sea dramático,
parce que le dernier point de la miséricorde,
porque el último punto de la misericordia,
c'est de tenter quand même de donner un début de réponse à cette souffrance.
Es intentar dar una respuesta al comienzo de este sufrimiento.
Ce n'est pas toujours facile.
No siempre es fácil.
Et parfois il faut attendre longtemps.
Y a veces hay que esperar mucho tiempo.
Mais ce début de réponse possible,
pero este comienzo de respuesta posible,
ça s'appelle Jésus.
Se llama Jesús.
C'est-à-dire, vous savez, on a l'habitude de dire le Christ n'est pas venu donner une solution à la souffrance de l'homme.
Sabéis que se dice que Cristo no ha venido a dar una solución al sufrimiento del hombre.
O plutôt, il n'est pas venu expliquer la souffrance de l'homme.
O quizás no ha venido a dar una explicación al sufrimiento del hombre.
Mais il est venu ouvrir une voie,
pero ha venido a abrir una vía
qui fait que la souffrance peut devenir un lieu de vie.
Que hace que el sufrimiento pueda convertirse en un lugar de vida.
Elle peut devenir quelque chose qui, paradoxalement, va fortifier l'homme.
Puede convertirse en algo que, paradójicamente, va a fortificar al hombre.
Quelque chose qui va transformer la vie de l'homme.
Algo que va a transformar la vida del hombre.
Ça, c'est la miséricorde jusqu'où.
Esta es la misericordia hasta el fin.
C'est pourquoi,
por ello,
comment dire,
premièrement,
en primer lugar,
le médecin, le soignant,
el médico, el personal sanitario,
n'est pas seulement un technicien de la santé.
No solamente es un técnico de la salud,
mais le soignant est celui qui est choisi.
Pero el sanitario es aquel que elige.
Par le Christ,
por Cristo,
pour porter sa miséricorde, la miséricorde du Christ,
para llevar la misericordia de Cristo
a ceux qui souffrent,
a aquellos que sufren.
Ça, c'est la priorité.
Esa es la prioridad.
Juste après, il y a la notion de soigner.
Y después está la noción de cuidar.
Avec la compétence que nous avons.
Con la competencia que tengamos.
chacun la sienne.
Cada uno la suya.
Mais juste avant, il y a cette question de miséricorde.
Pero justo antes está esta cuestión de misericordia.
Alors que, comment dire, les soignants dans notre monde actuel,
así como podemos decir que el sanitario en el mundo actual,
sont pris dans une dynamique d'efficacité d'abord.
Están en una con la prioridad de eficacia en primer lugar.
Et ils se disent ou on leur fait dire que ce qui est la priorité,
y se dicen o les dicen que lo que es la prioridad,
c'est soigner la maladie.
Es cuidar la enfermedad.
Le reste, c'est pas important, c'est pour plus tard, ou c'est...
Lo demás no es importante, se puede dejar para más tarde.
Et l'Évangile dit,
y el Evangelio nos dice,
et l'Église dit, pareil,
y también la Iglesia nos dice,
la priorité pour le soignant,
la prioridad para el personal sanitario,
c'est de commencer par exercer la miséricorde,
es comenzar ejerciendo la misericordia,
pour prolonger immédiatement dans l'exercice de la compétence,
para seguir inmediatamente en el ejercicio de la competencia.
Et ça, c'est une révolution, une conversion de notre mentalité.
Y esto es una revolución, una conversión de nuestra mentalidad
qu'il faut réaliser,
que tenemos que realizar.
Et que nous allons essayer de vivre au moins un peu ensemble pendant ce week-end.
Y que vamos a intentar vivir todos juntos en este fin de semana.
C'est le cardinal Angelini.
Es el cardenal
Angelini. Qui est donc le si je ne m'abuse, qui était ou qui est, je ne sais plus,
que no
si c'est encore lui ou pas,
le
cardinal responsable de la Congrégation pour la Santé à Rome.
Que es el cardenal responsable de la Congrégation de la Salud en Roma.
Et qui disait une chose très intéressante que je vous livre.
Que decía algo muy interesante que os digo.
Le métier de soignant,
el oficio de sanitario,
premièrement, c'est plus qu'un métier.
En primer lugar, es más que un, más que una profesión.
C'est une vocation.
Es una vocación.
Et en plus,
y además,
cette vocation,
esta vocación,
est une participation à la mission du Christ.
Es una participación en la misión de Cristo.
Et la mission du Christ a une double dimension.
Y la misión de Cristo tiene una doble dimensión.
Soigner les malades.
Cuidar a los enfermos.
Et annoncer la bonne nouvelle.
Y anunciar la buena noticia.
Eh bien, ça c'est pour le Christ.
Esto es para Cristo.
Dans les évangiles.
En los evangelios,
il annonçait la bonne nouvelle,
anunciaba la buena noticia,
il prêchait le royaume de Dieu,
él predicaba el reino de Dios,
et il soignait les malades,
y él sanaba a los enfermos.
Vous savez, comment dire, on a plutôt l'habitude d'entendre dans les évangiles Jésus annoncer le royaume.
Tenemos la costumbre de oír que Jesús sana, anunciaba el reino,
et faisait des guérisons.
Y hacía sanaciones.
Hein? On dit faire des guérisons, c'est de l'extraordinaire.
Hacer sanaciones es algo extraordinario.
C'est du charismatique.
Es carismático.
C'est pas forcément pour les soignants.
No es justamente para el personal sanitario.
C'est un peu ce qu'on pense souvent, non?
Es lo que se piensa ahora, ¿no?
Oui, non?
Sí o no?
Il y a trois semaines,
hace tres semanas,
j'étais un colloque à Rome sur la prière de guérison.
Estuve en un coloquio en Roma sobre la oración de sanación.
Vous savez, c'est un colloque qui réunissait tous les organisé par le cardinal Stafford.
Un coloquio que fue organizado por el cardenal Stafford
pour la congrégation pour les laïcs,
para la congregación de los laicos,
et aussi organisée par le Renouveau Charismatique International.
Y también organizada por la Renovación Carismática Internacional.
L'ICRES.
L'ICRES.
C'était donc un colloque sur le ministère de guérison et la prière de guérison.
Era un coloquio sobre los ministerios de sanación y la oración de sanación.
Dans le renouveau charismatique.
En la renovación carismática.
Un peu partout dans le monde.
Un poco en todas partes del mundo.
Il y avait tous les ministères de guérison au plan international qui étaient là.
Estaban todos los ministerios de sanación internacionales representados allí.
Et il y avait des interventions très intéressantes.
Hubo intervenciones muy interesantes.
Moi j'en ai retenu surtout deux.
Sobre todo yo he retenido dos.
Tout d'abord, il y a eu une intervention d'un théologien bibliste.
Hubo la intervención de un teólogo biblista,
un grand jésuite,
un gran jesuita,
qui nous a expliqué,
que nos ha explicado
avec beaucoup de clarté,
con mucha claridad,
que au plan biblique,
que en el plan bíblico,
quand il était écrit dans les évangiles que Jésus faisait des guérisons.
Cuando estaba escrito en los evangelios que Jesús hacía sanaciones o curaciones,
le grec, le mot grec pour cette expression de guérir les malades,
la palabra griega para esta expresión de sanar a los enfermos,
c'était pas un mot qui désignait d'abord une sorte de miracle.
No era en primer lugar algo que designaba un milagro.
C'était le mot grec.
Era la palabra griega terapein,
qui veut dire soigner,
que quiere decir curar.
Et il faudrait plutôt traduire dans les évangiles.
Así pues, se debería traducir en los evangelios
que Jésus soignait beaucoup de malades.
Que Jesús curaba a muchos enfermos.
En même temps qu'il annonçait la bonne nouvelle.
A la vez que él anunciaba la buena noticia.
Bien sûr, il soignait beaucoup de malades avec la grâce qui était la sienne.
Claro que él sanaba muchos enfermos con su gracia.
Il soignait les malades avec la puissance de Dieu.
Él curaba a los enfermos con el poder de Dios.
Et il y avait des signes prodigieux.
Y hubo signos prodigiosos.
Des signes de guérison, j'entends.
Signos de curaciones.
Mais il y avait aussi des signes qui étaient moins, plus petits.
También había signos que eran más pequeños.
Mais l'important, c'est que dans cette mission de Jésus.
Pero lo importante es que en esta misión de Jesús,
c'était moins une question de faire des miracles.
Era menos una cuestión de hacer milagros
que de guérir des malades.
Que el curar a los enfermos.
Et pour nous soignants, c'est important de l'entendre.
Y para nosotros los sanitarios es importante oír esto.
Parce que si nous ne sommes pas tous invités à exercer un charisme de guérison.
Porque si nosotros todos no somos invitados a ejercer un carisma de curación.
Nous sommes tous invités à exercer notre vocation dans la puissance du Saint-Esprit.
Todos somos invitados a ejercer nuestra vocación en el poder del Espíritu Santo.
¿Es que nous faisons así?
¿Lo hacemos así suficientemente?
¿Es que nous avons conscience?
¿Es que tenemos nosotros la conciencia
que nous sommes intégrés dans la mission du Christ?
Que estamos integrados en la misión de Cristo.
Et la mission du Christ, on la coupe pas en plusieurs morceaux.
Y esa misión de Cristo no se corta en distintos trozos.
La misión de Cristo es anunciar la buena nouvelle y soigner los malades.
La misión de Cristo es anunciar la buena noticia y curar a los enfermos.
Y la misión del soignant.
Y la misión del personal sanitario.
Yes. Eh bien, ce n'est pas seulement soigner les malades.
No es solamente curar a los enfermos.
C'est tout autant annoncer la bonne nouvelle.
También es anunciar la buena noticia.
Et si on ne fait que l'un des deux,
y si solamente hacemos uno de los dos,
peut-être que l'on fait notre métier de soignant,
quizás nosotros cumplamos con nuestro trabajo de sanitario,
mais nous ne sommes pas pleinement dans notre vocation.
Pero no estamos plenamente en nuestra vocación.
Alors la bonne question à se poser,
así, la buena pregunta que nos tenemos que hacer,
pour les soignants d'aujourd'hui,
para los sanitarios de hoy,
c'est qu'est-ce